Jean-Jacques Brault, monsieur le préfet, bonsoir.
Bonsoir, Elisabeth.
Et merci d'accepter de répondre à nos questions alors que vous suivez de près, on le sait, l'actualité calédonienne après avoir été haut commissaire en Nouvelle-Calédonie. Tout de suite, 4 mois après, quelle a été votre réaction le 13 mai face à ce déferlement de violence insurrectionnelle qu'a connu le territoire ?
Un accablement total, une tristesse épouvantable, pas totalement une surprise sur le fait que quelque chose s'est produit et qu'on sentait se préparer depuis plusieurs mois, mais l'ampleur du désastre nous a vraiment, ma femme et moi, saisis. Et je dois dire, depuis lors, nous sommes, avec quelques autres, en France métropolitaine, accablés par l'enlisement et le pourrissement de cette situation insurrectionnelle qui a commencé le 13 mai.
Vous dites pas complètement surpris. Comment vous l'expliquez ? Quels sont, selon vous, les éléments déclencheurs et est-ce qu'on aurait pu l'éviter ?
Alors, on ne va pas, effectivement, qui serais-je pour réécrire l'histoire, mais du moins peut-on dire que les observateurs de bonne foi voyaient quand même monter la puissance de la CCAT, tout de même, depuis plusieurs semaines, voyaient se tendre les relations purement politiques autour du dégel du corps électoral et de la priorité qui lui était donnée par certaines forces et par le gouvernement, d'un certain point de vue, au détriment peut-être, sans doute, d'une négociation globale qui aurait inclus l'aspect dégel du corps électoral. Donc, on ne va pas encore une fois faire ici et maintenant le procès ou accabler les uns les autres. Il y a certainement eu des défauts de vigilance, de renseignement, de prévision, d'appréciation de la gravité de la situation. Voilà, ça c'est ce qu'on peut ressentir. Et pour ceux qui, j'en faisais partie, étaient inquiets depuis plusieurs mois, quel gâchis de s'être heurté à une sorte de surdité volontaire d'un certain nombre de responsables à Paris et ailleurs.
Alors, vous parlez d'enlisement 4 mois après. Le retour à l'ordre public, c'est la priorité pour vous ?
Oui, j'observe qu'on n'en est pas là. Et encore une fois, je ne veux pas accabler ni mettre en procès quiconque, mais le citoyen que je suis, l'ancien préfet que je suis, se dit qu'avec un tiers des forces de l'ordre et de maintien de l'ordre français concentrées sur la Nouvelle-Calédonie, que 4 mois après, l'ordre ne soit pas rétabli partout, est proprement inquiétant. J'entends bien, je ne suis pas de ceux, personne d'ailleurs ne veut qu'on fasse un massacre à Saint-Louis pour rétablir et libérer les personnes qui sont coincées depuis 4 mois au Mont d'Or. Mais tout de même, il y avait peut-être des façons, il y aurait peut-être eu, ou il y a peut-être encore des moyens qui ne sont pas seulement de la responsabilité des gendarmes, si j'ose dire, mais qui sont de nature un peu politique, des négociations, pour que la sécurité, première des libertés, soit assurée à tous nos compatriotes. Et quand je parle de sécurité, je parle aussi de la santé publique. Je suis extrêmement frappé. On aura sans doute le nombre des victimes indirectes par défaut de soins de cette tragédie. Mais c'est un des éléments qui nous frappe le plus, ma femme et moi, par tous les contacts qu'on a, ces souffrances imposées aux populations calédoniennes par ce défaut de soins et le défaut d'éducation des enfants, des petits-enfants, des collégiens, des lycéens, sans parler de l'économie écroulée à 80%. Donc oui, la sécurité d'aller et venir, première des libertés, ne semble pas tout à fait totalement assuré. Les citoyens français et contribuables français se réjouissent de voir que les restaurants, les discothèques et les nightclubs des baies de Nouméa font beaucoup d'affaires avec tous les militaires, tous les policiers, tous les gendarmes qui les fréquentent. Mais on se demande comment réellement toutes ces forces sont là alors que l'ordre n'est pas totalement rétabli plus de 4 mois après. C'est très extravagant que cette portion du territoire national soit en quelque sorte soustraite à la souveraineté nationale. Dans quelle portion du territoire national aurait-on, par exemple, accepté que 6 églises, un temple bouddhiste et 2 loges maçonniques soient incendiées tout ou partiellement depuis 4 mois sans qu'il y ait plus de réaction ? Encore une fois, c'est quand même des libertés essentielles qui sont totalement mises en cause. Donc, c'est un pourrissement d'une situation qui doit interpeller le gouvernement de M. Barnier et le Premier ministre lui-même.
Justement, est-ce que l'État a pris, selon vous, la mesure de la situation et qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? C'est de sa responsabilité d'essayer de trouver une solution politique?
Oui, Elisabeth, vous savez, je l'avais déjà exprimé sur votre antenne il y a plus de 10 ans, je considérais et je considère toujours que s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le rôle de l'État est primordial. C'est à lui que revient, par ses représentants gouvernementaux, l'initiative pour remettre de la confiance avant de remettre les personnes autour d'une table pour discuter, encore faudrait-il déterminer lesquelles. Mais d'abord, c'est à l'État, évidemment maintenant, après une période qu'on peut qualifier d'inertie totale depuis plusieurs mois, de prendre au moins une initiative ou deux pour que nos compatriotes, c'est ça qui m'étreint le cœur, plus de 260 000 de nos compatriotes ressentent un abandon de l'État et donc de la France, me semble-t-il. Et l'État serait dans son rôle historique classique de prendre l'initiative de rétablir l'ordre, la stabilité, la confiance, en même temps que la reconstruction devrait évidemment être entamée. Et selon moi, dans l'état actuel de cessation de paiement de beaucoup d'autorités publiques et privées, ou de la CAFAP ou d'autres de la Nouvelle-Calédonie, j'ai écrit et je redis, parmi les propositions que je fais, une administration directe, temporaire naturellement, par l'État me paraîtrait la réponse appropriée, temporaire bien entendu, mais à une situation aussi tragique de pourrissement durable, il faut répondre de façon singulière et nos normes administratives et juridiques sont là pour s'y adapter, pour permettre un sursaut, d'enrayer cette spirale qui est une sorte de suicide et de permettre à la Nouvelle-Calédonie de respirer un peu. Je pense, et je fais partie de ceux qui pressent les autorités gouvernementales pour que ce dossier soit autant prioritaire que ceux que le Premier ministre évoque depuis quelques jours qu'il a été nommé, car sont en jeu non seulement des questions humaines évidentes et la solidarité à l'égard de nos compatriotes calédoniens est première, mais aussi des questions stratégiques du point de vue économique et stratégiques du point de vue diplomatique et militaire. Enfin, comment donc? On entend parler depuis quelques années d'axe indo-pacifique et on laisserait la Nouvelle-Calédonie couler littéralement. Et qu'on se souvienne de l'histoire de France et de l'histoire du monde et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de simplement du rôle et de la place que la France doit continuer à jouer dans le monde grâce en particulier à la Nouvelle-Calédonie et au profit d'abord des habitants de la Nouvelle-Calédonie à laquelle la France, jusqu'à preuve du contraire, apporte stabilité, liberté et un certain niveau de vie. Donc oui, l'État doit prendre une initiative enfin. Oui, ce n'est pas être insultante que de constater que depuis le 17 juillet, certainement depuis le 9 juin, la dissolution et un peu avant, il n'y a pas eu d'initiative vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie et que je pense que c'est une faute politique.
Maintenant, on attend le Premier ministre est nommé, on attend encore la composition du gouvernement. Qui doit s'occuper du dossier calédonien selon vous? C'est le président de la République comme il semble en avoir l'intention? C'est le Premier ministre comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant? Ou c'est une structure dédiée, comme on l'a parfois évoqué, qui serait consacrée uniquement à la Calédonie?
On a évoqué la structure dédiée. Je pense que ce serait une bonne idée en période calme, si j'ose dire, ou d'application classique de la suite des accords de Nouméa. Maintenant, l'accord de Nouméa est terminé. Il faut partir sur autre chose. Et je pense qu'il faut évacuer l'idée du président de la République, même si j'entends bien qu'il a dit récemment à la présidente de la province sud qu'il allait continuer à voir le dossier de près, ce que l'on peut comprendre, il y a sans doute une volonté de sa part, ne serait-ce que sur le plan diplomatique, un sursaut par rapport à ses ambitions diplomatiques par ailleurs, il me semble qu'il serait raisonnable qu'en bonne application de l'article 20 de la Constitution, ce dossier revienne au gouvernement et au chef du gouvernement. Ce dossier, c'est pas un dossier, c'est une tragédie. La tragédie calédonienne doit être géré au plus haut niveau de l'administration de l'État, c'est-à-dire au niveau, me semble-t-il, du Premier ministre. Que celui-ci s'entoure de conseillers spéciaux d'une délégation, qu'importe. C'est une priorité nationale au même titre que l'insécurité en métropole, que l'immigration, que le déficit budgétaire. La Calédonie est une priorité nationale qui doit être gérée par le Premier ministre, qui dispose de l'administration. Le président ne dispose pas de l'administration. Une lecture plus classique de la Ve République va, paraît-il, arriver. C'est pourquoi je pense, comme beaucoup, que c'est au niveau du Premier ministre que les choses doivent se conduire. D'autant plus que ce serait en continuité traditionnelle avec ce qui a fonctionné bon an mal an pendant des années, depuis Michel Rocard, je la fais courte, jusqu'à Édouard Philippe, à quelques exceptions près. Les Calédoniens, ceux qui s'y intéressent en France métropolitaine et les parlementaires, pensent, je crois, très majoritairement pour que ce soit le Premier ministre qui s'en saisisse, et c'est pourquoi, avec d'autres, je pense que c'est M. Barnier lui-même qui devrait se saisir de ce dossier. Il en a la capacité, l'habitude de la négociation et le pouvoir de par l'article 20 de la Constitution.
Mais dans le schéma que l'on connaît depuis 88, il y a quand même au moins l'un des partenaires aujourd'hui qui est en grande faiblesse. On sait que la CCAT est une création de l'Union calédonienne, l'UPM et le PALICA ont pris leur distance. Est-ce que le FLNKS a disparu ou est-ce qu'il peut encore être un interlocuteur dans les discussions à venir ?
Alors, chère Elisabeth, je vous entends parfaitement. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, selon moi, il faut d'abord que le gouvernement se saisisse au niveau du Premier ministre, sans doute se saisisse d'une forme d'administration directe à très court terme, tout en cherchant immédiatement à renouveler les interlocuteurs de l'État et à dépasser en quelque sorte ce qui était le classique depuis 1988, un bloc ou une coalition indépendantiste, une coalition non indépendantiste et le troisième pied du triptyque, l'État. Je pense qu'il ne faut pas évacuer les représentants des partis, quels qu'ils soient, et des institutions actuelles, nées de l'accord de Nouméa, et qu'il faut renouveler les interlocuteurs de l'État. J'étais frappé de voir que quand le président de la République est venu, sauf à ce qu'on me demande, les représentants de la coutume et des cultes n'y étaient pas. Je ne crois pas que les 33 maires y étaient non plus. Je pense au moins que dans ces trois groupes, il y a des interlocuteurs à susciter, et en tout cas je pense, et je l'ai dit souvent à Gérard Larcher et Yael Brun-Pivet, que les 33 maires, plus les représentants des aires coutumières, plus les représentants des cultes longuement représentés en Nouvelle-Calédonie, doivent faire partie de ces interlocuteurs naturels de l'État auxquels le président a invité, et c'est sans doute une très bonne idée, le monde économique lorsqu'il est passé le 23 mai dernier. Mais on ne peut plus se focaliser ou s'en remettre uniquement aux représentants des partis. Il n'est pas question de les exclure. Mais il faut évidemment dépasser ces représentations qui sont respectables et qui sont traversées de telles haines internes d'un côté comme de l'autre qu'on ne peut pas décemment considérer que ce sont les seuls interlocuteurs crédibles pour l'État. Il faut renouveler les interlocuteurs de l'État, étendre dans un premier temps pour qu'émergent progressivement, de façon sans doute très singulière et originale, des représentations qui permettent de discuter, non pas d'abord d'affaires institutionnelles, on a passé son temps à faire du mécano institutionnel en Nouvelle-Calédonie. Les gens ont besoin de vivre, d'être protégés, d'être soignés, d'être éduqués. Donc parlons d'abord d'affaires sociales, d'affaires économiques. Puis après, il sera temps de faire de la stratégie institutionnelle et que les profs de droit public se déchaînent. Commençons par le béaba de la confiance, de la reconstruction et parlons des besoins des populations qui sont tout de même en train de survivre dans une économie ruinée, un champ de ruines traversé par des haines suscitées ou ressuscitées qui n'existaient plus depuis 40 ans. On ne peut pas s'en satisfaire. Et donc le gouvernement français ne peut plus, à mon avis, supporter cette déréliction, cette chute d'une part de la souveraineté nationale.
Pour conclure, Jean-Jacques Brault, vous restez optimiste pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il faut le rester, et vous pensez que le vivre ensemble dont on parle depuis de nombreuses années va survivre à cet épisode terrible ?
Vivre ensemble, non, parce que vous savez, j'ai toujours détesté cette approche qui c'est le parallélisme des communautés et c'est pas la fraternité républicaine ou autre qu'on veut recréer. Je reste fondamentalement optimiste si le gouvernement, encore une fois, français, prend des initiatives très rapides. Il y a des ressorts dans la population calédonienne de générosité, d'écoute, de disponibilité, certains diront de résilience, qui sont considérables. Je parle autant de chefs d'entreprise que des cultes et de la coutume, que certains maires, bien entendu, partout. Les gens veulent un avenir ensemble, un avenir sans doute réellement fraternel, qui ne se paye pas de mots. Je pense que c'est fondamentalement encore possible et que certaines évolutions, certains partis, les choses qui se passent, le démontrent. Encore faut-il que, à mon sens, ce soit ressenti du côté de l'État et que ce soit exprimé par l'État, tant au niveau gouvernemental national qu'au niveau du territoire. On a besoin d'une administration directe de mission temporaire, certes, animée par une réelle volonté de reconstruction par la confiance pour la paix. C'est possible. Ça demande, à mon avis, des initiatives extrêmement prochaines, beaucoup de bonne volonté, mais ce qui est rassurant, c'est, je me répète, les ressorts de fraternité qui existent dans la population calédonienne, en dépit de ce qui s'est produit et ce qui se produit encore. Et ce qui est horrifiant quand on voit les choses, quand on entend les témoignages quotidiens que nous entendons ou qu'on voit des images, c'est tout de même inimaginable. Mais, fondamentalement, l'espérance demeure.
Merci beaucoup Jean-Jacques Brault pour cet éclairage et pour cette analyse de la situation calédonienne.
Merci Elisabeth Noir, merci beaucoup.